Jules Amédée Barbey d'Aurevilly, Les Diaboliques, La vengeance d'une femme, partie 1. Vers la fin du règne de Louis-Philippe, un jeune homme enfilait un soir la rue basse du rempart, qui dans ce temps-là méritait bien son nom de la rue basse car elle était moins élevée que le sol du boulevard et formait une excavation toujours mal éclairée et noire, dans laquelle on descendait du boulevard par deux escaliers qui se tournaient le dos, si on peut dire cela de deux escaliers. Cette excavation qui n'existe plus et qui se prolongeait de la rue de la Chaussée-d'Antin à la rue Caumartin, devant laquelle le terrain reprenait son niveau, cette espèce de ravin sombre où l'on se risquait à peine le jour était fort mal hanté quand venait la nuit. Le diable est le prince des ténèbres. Il avait là une de ses principautés. Au centre à peu près de cette excavation, bordée d'un côté par le boulevard formant terrasse et de l'autre par de grandes maisons silencieuses à portes cochères et quelques magasins de bric-à-brac, il y avait un passage étroit et non couvert où le vent, pour peu qu'il fît du vent, jouait comme dans une flûte et qui conduisait le long d'un mur et des maisons en construction jusqu'à la rue Neuve des Mathurins. Le jeune homme en question, et très bien mis du reste, qui venait de prendre ce chemin, lequel ne devait pas être pour lui le droit chemin de la vertu, ne l'avait pris que parce qu'il suivait une femme qui s'était enfoncée, sans hésitation et sans embarras, dans la suspecte noirceur de ce passage. C'était un élégant que ce jeune homme, un gant jaune, comme on disait des élégants de ce temps-là. Il avait dîné longuement au café de Paris et il était venu, tout en mâchonnant son cure-dent, se placer contre la balustrade à mi-corps de Tortoni, à présent supprimée d'ailleurs, et guigner de là les femmes qui passaient le long du boulevard. Celle-là était justement passée plusieurs fois devant lui. Et quoique cette circonstance ainsi que la mise trop voyante de cette femme et le tortillement de sa démarche fussent de suffisante étiquette, quoique ce jeune homme qui s'appelait Robert de Trécigny fut horriblement blasé et qu'il revint d'Orient, où il avait vu l'animal femme dans toutes les variétés de son espèce et de ses races, à la cinquième passe de cette déambulante du soir, il l'avait suivie, chiennement, comme il disait, en se moquant de lui-même, car il avait la faculté de se regarder faire et de se juger à mesure qu'il agissait, sans que son jugement très souvent contraire à son acte empêchât son acte, ou que son acte nuisît à son jugement. Asymptote terrible. Trécigny avait plus de 30 ans. Il avait vécu cette niaise première jeunesse qui fait de l'homme le Jeu-Christ de ses sensations, et pour qui la première venue qui passe est un magnétisme. Il n'en était plus là. C'était un libertin déjà froidi et très compliqué de cette époque positive, un libertin fortement intellectualisé, qui avait assez réfléchi sur ses sensations pour ne plus pouvoir en être dupe et qui n'avait peur ni horreur d'aucune. Ce qu'il venait de voir, ou ce qu'il avait cru voir, lui avait inspiré la curiosité qui veut aller au fond d'une sensation nouvelle, très résolu à pousser à fin la très vulgaire aventure qu'il entrevoyait. Pour lui, en effet, cette femme qui s'en allait devant lui, déferlant onduleusement comme une vague, n'était qu'une fille du plus bas étage. Mais elle était d'une telle beauté qu'on pouvait s'étonner que cette beauté ne l'eût pas classée plus haut, et qu'elle n'eût pas trouvé un amateur qui l'eût sauvé de l'abjection de la rue. Car à Paris, lorsque Dieu y plante une jolie femme, le diable en réplique y plante immédiatement un sceau pour l'entretenir. Et puis encore, il avait, ce Robert de Trécigny, une autre raison pour la suivre que la souveraine beauté que ne voyaient peut-être pas ces Parisiens, si peu connaisseurs en beauté vraie, et dont l'esthétique, démocratisée comme le reste, manque particulièrement de hauteur. Cette femme était pour lui une ressemblance. Elle était cet oiseau moqueur qui joue le rossignol dont parle Byron dans ses mémoires avec tant de mélancolie. Elle lui rappelait une autre femme vue ailleurs. Il était sûr, absolument sûr que ce n'était pas elle, mais elle lui ressemblait à s'y méprendre si ce méprendre n'avait pas été impossible. Et il en était du reste plus attiré que surpris, car il avait assez d'expérience comme observateur pour savoir qu'en fin de compte, il y a beaucoup moins de variété qu'on ne croit dans les figures humaines, dont les traits sont soumis à une géométrie étroite et inflexible, et peuvent se ramener à quelques types généraux. La beauté est une, Seule la laideur est multiple, et encore, sa multiplicité est bien vite épuisée. Dieu a voulu qu'il n'y eût d'infini que la physionomie, parce que la physionomie est une immersion de l'âme à travers les lignes correctes ou incorrectes, pures ou tourmentées du visage. Tressigny se disait confusément tout cela en mettant son pas dans le pas de cette femme qui marchait le long du boulevard sinueusement et le coupait comme une faux, plus fière que la reine de Saba dans sa robe de satin safran, cette couleur aimée des jeunes romaines et dont elle faisait en marchant miroiter, crier les plis glacés, luisant comme un appel aux armes. Exagérément cambrée, comme il est rare de l'être en France, elle s'étreignait dans un magnifique châle turc à larges raies blanches, écarlates et or. Et la plume rouge de son chapeau blanc, splendide de mauvais goût, lui vibrait jusque sur l'épaule. On se souvient qu'à cette époque, les femmes portaient des plumes penchées sur leur chapeau, qu'elles appelaient des plumes en saule pleureur. Mais rien ne pleurait en cette femme, et la sienne exprimait bien autre chose que la mélancolie. Tressigny, qui croyait qu'elle allait prendre la rue de la Chaussée-d'Antin, étincelante de ses 1000 becs de lumière, vit avec surprise tout ce luxe piaffant de courtisane, toute cette fierté impudente de fille enivrée d'elle-même et des soies qu'elle traînait, s'enfoncer dans la rue basse du rempart, la honte du boulevard de ce temps. Et l'élégant, aux bottes vernies, moins brave que la femme, hésita avant d'entrer là-dedans. Mais ce ne fut guère qu'une seconde. La robe noire perdue un instant dans les ténèbres de ce trou noir, après avoir dépassé l'unique réverbère qui les tatouait d'un point lumineux, reluisit au loin et il s'élança pour la rejoindre. Il n'eut pas grand-peine, elle l'attendait, sûre qu'il viendrait. Et ce fut alors qu'au moment où il la rejoignit, elle lui projeta bien en face pour qu'il pût en juger son visage, et lui campa ses yeux dans les yeux avec toutes les effronteries de son métier. Il fut littéralement aveuglé de la magnificence de ce visage empâté de vermillon, mais d'un brun doré comme les ailes de certains insectes, et que la clarté blême, tombant en maigre filet du réverbère, ne pouvait pas pâlir. « Vous êtes espagnol ?» fit Tressigny, qui venait de reconnaître un des plus beaux types de cette race. « C'est, » répondit-elle. Être espagnol à cette époque-là, c'était quelque chose. C'était une valeur sur la place. Les romans d'alors, le théâtre de Clara Gazul, les poésies d'Alfred de Musset, les danses de Mariano Camprubi et de Dolores Serral faisaient excessivement priser les femmes oranges aux joues de grenade. Et qui se vantait d'être espagnol ne l'était pas toujours. Mais on s'en vantait. Seulement, elle ne semblait pas plus tenir à sa qualité d'espagnol qu'à toute autre chose qu'elle aurait fait chatoyer. Et en français, « Viens-tu ?» lui dit-elle à brûle-pourpoint et avec le tutoiement qu'aurait eu la dernière fille de la rue des Poulies, existant aussi d'ailleurs, vous la rappelez-vous ? Une immondice. Le ton, la voix déjà rauque, cette familiarité prématurée, ce tutoiement si divin, le ciel, sur les lèvres d'une femme qui vous aime, et qui devient la plus sanglante des insolences dans la bouche d'une créature pour qui vous n'êtes qu'un passant, aurait suffi pour dégriser Tressigny par le dégoût. Mais le démon le tenait. La curiosité, pimentée de convoitise dont il avait été mordu, en voyant cette fille qui était plus pour lui que de la chair superbe tassée dans du satin, lui aurait fait avaler non pas la pomme d'Ève, mais tous les crapauds d'une crapaudière. « Pardieu, dit-il, si je viens !» comme si elle pouvait en douter. « Je me mettrai à la lessive demain, » pensa-t-il. Ils étaient au bout du passage par lequel on gagnait la rue des Mathurins. Ils s'y engagèrent. Au milieu des énormes moellons qui gisaient là et des constructions qui s'y élevaient, une seule maison restait debout sur sa base, sans voisine, étroite, laide, rechignée, tremblante, qui semblait avoir vu bien du vice et bien du crime à tous les étages de ces vieux murs ébranlés, et qui avait peut-être été laissé là pour en voir encore, se dressait d'un noir plus sombre dans un ciel déjà noir. Longue perche de maison aveugle, car aucune de ces fenêtres, et les fenêtres sont les yeux des maisons, n'était éclairée, et qui avait l'air de vous raccrocher en tâtonnant dans la nuit. Cette horrible maison avait la classique porte entrebâillée des mauvais lieux, et au fond d'une ignoble allée, l'escalier dont on voit quelques marches éclairées d'en haut par une lumière honteuse et sale. La femme entra dans cette allée étroite qu'elle emplit de la largeur de ses épaules et de l'ampleur foisonnante et frissonnante de sa robe, et d'un pied accoutumé à de pareilles ascensions, elle monta lestement l'escalier en colimaçon, image juste car cet escalier en avait la viscosité. Chose inaccoutumée à ses bouges, en montant, cet abominable escalier s'éclairait. Ce n'était plus la lueur épaisse du quinquet puant d'huile qui rampait sur les murs du premier étage, mais une lumière qui, au second, s'élargissait et s'épanouissait jusqu'à la splendeur. Deux griffes de bronze chargées de bougies, incrustées dans le mur, illuminaient avec un faste étrange une porte, commune d'aspect, sur laquelle était collée, pour qu'on sût chez qui on entrait, la carte où ces filles mettent leur nom, pour que, si elles ont quelque réputation et quelque beauté, le pavillon couvre la marchandise. Surpris de ce luxe si déplacé en pareil lieu, Tressigny fit plus attention à ses torchères d'un style presque grandiose qu'une puissante main d'artiste avait tordu, qu'à la carte et au nom de la femme qu'il n'avait pas besoin de savoir puisqu'il l'accompagnait. En les regardant, pendant qu'elle faisait tourner une clé dans la serrure de cette porte si bizarrement ornée et inondée de lumière, le souvenir lui revint des surprises des petites maisons du temps de Louis XV. « Cette fille-là aura lu, pensa-t-il, quelques romans ou quelques mémoires de ce temps, et elle aura eu la fantaisie de mettre un joli appartement plein de voluptueuses coquetteries là où on ne l'aurait jamais soupçonné. » Mais ce qu'il trouva, la porte une fois ouverte, dut redoubler son étonnement, seulement dans un sens opposé. Ce n'était en effet que l'appartement trivial et désordonné de ces filles-là. Des robes, jetées çà et là, confusément sur tous les meubles, et un lit vaste, le champ de manœuvre, avec les immorales glaces au fond et au plafond de l'alcôve, disaient bien chez qui on était. Sur la cheminée, des flacons qu'on n'avait pas pensé à reboucher avant de repartir pour la campagne du soir, croisaient leur parfum dans l'atmosphère tiède de cette chambre où l'énergie des hommes devait se dissoudre à la troisième respiration. Deux candélabres allumés, du même style que ceux de la porte, brûlaient des deux côtés de la cheminée. Partout, des peaux de bêtes faisaient tapis par-dessus le tapis. On avait tout prévu. Enfin, une porte ouverte laissait voir, par-dessous ses portières, un mystérieux cabinet de toilette, la sacristie de ses prêtresses. Mais tous ces détails, Tressigny ne les vit que plus tard. Tout d'abord, il ne vit que la fille chez laquelle il venait de monter. Sachant où il était, il ne se gêna pas, il se mit sans façon sur le canapé, attirant entre ses genoux cette femme qui avait ôté son chapeau et son châle et qui les avait jetés sur le fauteuil. Il la prit à la taille, comme s'il l'eût bouclée entre ses deux mains jointes, et il la regarda ainsi de bas en haut, comme un buveur qui lève au jour avant de le boire le verre de vin qu'il va sabler. Ses impressions du boulevard n'avaient pas menti. Pour un dégustateur de femmes, pour un homme blasé mais puissant, elle était véritablement splendide. La ressemblance qui l'avait tant frappée dans les lueurs mobiles et coupées d'ombre du boulevard, cette femme l'avait toujours en pleine lumière fixe. Seulement, celle à qui elle le faisait penser n'avait pas sur son visage, aux traits si semblables qu'ils en paraissaient identiques, cette expression de fierté résolue et presque terrible que le diable, ce père joyeux de toutes les anarchies, avait refusé à une duchesse et avait donné, pourquoi en faire, à une demoiselle du boulevard. Quand elle eut la tête nue, avec ses cheveux noirs, sa robe jaune, ses larges épaules dont ses hanches dépassaient encore la largeur, elle rappelait la Judith de Vernet, un tableau de ce temps, mais par le corps plus fait pour l'amour et par le visage plus féroce encore. Cette férocité sombre venait peut-être d'un pli qui se creusait entre ses deux beaux sourcils, qui se prolongeait jusque dans les tempes, comme Tressigny en avait vu à quelques Asiatiques en Turquie, et elle les rapprochait dans une préoccupation si continue qu'on aurait dit qu'ils étaient barrés. Souffle tant contraste. Cette fille avait la taille de son métier, elle n'en avait pas la figure. Ce corps de courtisane qui disait si éloquemment « prends », cette coupe d'amour au flanc arrondi qui invitait la main et les lèvres était surmontée d'un visage qui aurait arrêté le désir par la hauteur de sa physionomie, et pétrifié dans le respect la volupté la plus brûlante. Heureusement, le sourire volontairement assoupli de la courtisane et dont elle savait profaner la courbure idéalement dédaigneuse de ses lèvres ralliait bientôt à elle ceux que la fierté cruelle de son visage aurait épouvanté. Au boulevard, elle promenait ce raccrochant sourire, étalé impudiquement sur ses lèvres rouges. Mais au moment où Tressigny la tenait debout entre ses genoux, elle était sérieuse. et sa tête respirait quelque chose de si étrangement implacable qu'il ne lui manquait que le sabre recourbé aux mains pour que ce dandy de Trécigny pût, sans fatuité, se croire Holoferne. Il lui prit ses mains désarmées et il s'en attesta la beauté suzeraine. Elle lui laissait faire silencieusement tout cet examen de sa personne, et elle le regardait aussi, non pas avec la curiosité futile ou sordidement intéressée de ses pareils, qui, en vous regardant, vous soupèsent comme de l'or suspect. Évidemment, elle avait une autre pensée que celle du gain qu'elle allait faire ou du plaisir qu'elle allait donner. Il y avait dans les ailes ouvertes de ce nez aussi expressif que des yeux, et par où la passion, comme par les yeux, devait jeter des flammes, une décision suprême comme celle d'un crime qu'on va accomplir. Si l'implacabilité de ce visage était par hasard l'implacabilité de l'amour et des sens, quelle bonne fortune pour elle et pour moi dans ce temps d'épuisement, pensa Trécigny, qui avant de s'en passer la fantaisie la détaillait comme un cheval anglais. Lui, l'expérimenté, le fort critique en fait de femme, qui avait marchandé les plus belles filles sur le marché d'Andrinople et qui savait le prix de la chair humaine quand elle avait cette couleur et cette densité, jeta pour 2 heures de celle-ci une poignée de louis dans une coupe de cristal bleu posée à niveau de main sur une console et qui probablement n'avait jamais reçu tant d'or. « Ah, je te plais donc !» s'écria-t-elle audacieusement et prête à tout, sous l'action du geste qu'il venait de faire. Peut-être impatientée de cet examen dans lequel la curiosité semblait plus forte que le désir, ce qui, pour elle, était une perte de temps ou une insolence. « Laisse-moi ôter tout cela, » ajouta-t-elle, comme si sa robe lui eût pesé, et en faisant sauter les 2 premiers boutons de son corsage. Et elle s'arracha de ses genoux pour aller dans le cabinet de toilette d'à côté. Prosaïque détail. Voulait-elle ménager sa robe ? La robe, c'est l'outil de ces travailleuses. Trécigny, qui rêvait devant ce visage l'inassouvissement de Messaline, retomba dans la plate banalité. Il se sentit de nouveau chez la fille de Paris, malgré la sublimité d'une physionomie qui jurait cruellement avec le destin de celle qu'il avait. « Bah !» pensa-t-il encore. « La poésie n'est jamais qu'à la peau avec ses drôlesses, et il ne faut la prendre que là où elle est. » Et il se promit de l'y prendre, mais il la trouva aussi ailleurs, et là où, certes, il ne se doutait pas qu'elle fût la poésie. Jusque-là, en suivant cette femme, il n'avait obéi qu'à une irrésistible curiosité et à une fantaisie sans noblesse. Mais quand celle qui les lui avait si vite inspirée sortit du cabinet de toilette où elle était allée se défaire de tous ses carapassons du soir, et qu'elle revint vers lui dans le costume qui n'en était pas un, de gladiatrice qui va combattre, il fut littéralement foudroyé d'une beauté que son œil exercé, cet œil de sculpteur qu'ont les hommes à femmes, n'avait pas, au boulevard, deviné tout entière, à travers les souffles révélateurs de la robe et de la démarche. Le tonnerre entrant tout à coup au lieu d'elle par cette porte ne l'aurait pas mieux foudroyé. Elle n'était pas entièrement nue, mais c'était pis. Elle était bien plus indécente, bien plus révoltamment indécente que si elle eût été franchement nue. Les marbres sont nus et la nudité est chaste, c'est même la bravoure de la chasteté, mais cette fille, scélératement impudique, qui se serait allumée elle-même comme une des torches vivantes des jardins de Néron pour mieux incendier les sens des hommes, et à qui son métier avait sans doute appris les plus basses rubriques de la corruption, avait combiné la transparence insidieuse des voiles et l'osée de la chair avec le génie et le mauvais goût d'un libertinage atroce. Car qui ne le sait, en libertinage, le mauvais goût est une puissance. Par le détail de cette toilette, monstrueusement provocante, elle rappelait à Trécigny cette statuette indescriptible devant laquelle il s'était parfois arrêté, exposée qu'elle était chez tous les marchands de bronze du Paris d'alors et sur le socle de laquelle on ne lisait que ce mot mystérieux, « Madame Husson ». Dangereux rêve obscène. Le rêve était ici une réalité. Devant cette irritante réalité, devant cette beauté absolue, mais qui n'avait pas la froideur qu'a trop souvent la beauté absolue, Trécigny, retour de Turquie, aurait été le plus blasé des pachas à trois queues s'il eût retrouvé l'essence d'un chrétien, et même d'un anachorète. Aussi, quand, très sûr des bouleversements qu'elle était accoutumée à produire, elle vint impétueusement à lui, et qu'elle lui poussa à hauteur de la bouche l'éventaire des magnificences savoureuses de son corsage avec le mouvement retrouvé de la courtisane qui tente le sein dans le tableau de Paul Véronèse, Robert de Trécigny, qui n'était pas un saint, eut la fringale de ce qu'elle lui offrait, et il la prit dans ses bras, cette brutale tentatrice, avec une fougue qu'elle partagea car elle s'y était jetée. Se jetait-elle ainsi dans tous les bras qui se fermaient sur elle? Si supérieure qu'elle fût dans son métier ou dans son art de courtisane, elle fut ce soir-là d'une si furieuse et si hennissante ardeur que même l'emportement de sens exceptionnel ou malade n'aurait pas suffi pour l'expliquer. Était-elle au début de cette horrible vie de fille pour la faire avec une semblable furie? Mais vraiment, c'était quelque chose de si fauve et de si acharné qu'on aurait dit qu'elle voulait laisser sa vie ou prendre celle d'un autre dans chacune de ses caresses. En ce temps-là, c'est pareil à Paris qui ne trouvait pas assez sérieux le joli nom de Laurette que la littérature leur avait donné et qu'a immortalisé Gavarni, se faisait appeler orientalement des panthères. Eh ben, aucune d'elles n'aurait mieux justifié ce nom de panthère. Elle en eut ce soir-là la souplesse, les enroulements, les bonds, les égratignements et les morsures. Trécigny put s'attester qu'aucune des femmes qui lui étaient jusque-là passées par les bras ne lui avait donné les sensations inouïes que lui donna cette créature, folle de son corps à rendre la folie contagieuse. Et pourtant, il avait aimé Trécigny. Mais faut-il le dire à la gloire ou à la honte de la nature humaine? Il y a dans ce qu'on appelle le plaisir, avec trop de mépris peut-être, des abîmes tout aussi profonds que dans l'amour. Était-ce dans ces abîmes qu'elle le roula comme la mer roule un fort nageur dans les siens? Elle dépassa et bien au-delà ses plus coupables souvenirs de mauvais sujets, et même jusqu'aux rêves d'une imagination comme la sienne, tout à la fois violente et corrompue. Il oublia tout, et ce qu'elle était, et ce pourquoi il était venu, et cette maison, et cet appartement dont il avait eu presque en y entrant la nausée. Positivement, elle lui soutira son âme à lui, dans son corps à elle. Elle lui enivra jusqu'au délire des sens difficiles à griser. Elle le combla enfin de telle volupté qu'il arriva un moment où l'athée à l'amour, le sceptique à tout, eut la pensée folle d'une fantaisie éclose tout à coup dans cette femme qui faisait marchandise de son corps. Oui, Robert de Trécigny, qui avait presque dans la tempe la froideur d'acier de son patron Robert Lovelace, crut avoir inspiré au moins un caprice à cette prostituée, qui ne pouvait être ainsi avec tous les autres sous peine de bientôt périr consumée. Il le crut deux minutes comme un imbécile, cet homme si fort. Mais la vanité qu'elle avait allumée au feu d'un plaisir cuisant comme l'amour eut soudainement entre deux caresses le petit frisson d'un doute subi. Une voix lui cria du fond de son être « Ce n'est pas toi qu'elle aime en toi !» Car il venait de la surprendre dans le temps où elle était le plus panthère et le plus souplement nouée à lui, distraite de lui, et toute perdue dans l'absorbante contemplation d'un bracelet qu'elle avait au bras et sur lequel Trécigny avisa le portrait d'un homme. Quelques mots en langue espagnole que Trécigny, qui ne savait pas cette langue, ne comprit pas, mêlés à ses cris de Bacchante, lui semblèrent à l'adresse de ce portrait. Alors, l'idée qu'il posait pour un autre, qu'il était là pour le compte d'un autre, ce fait, malheureusement si commun dans nos misérables mœurs avec l'état surchauffé et dépravé de nos imaginations, ce dédommagement de l'impossible dans les âmes enragées qui ne peuvent avoir l'objet de leurs désirs et qui se jettent sur l'apparence, se saisit violemment de son esprit et le glaça de férocité. Dans un de ces accès de jalousie absurde et de vanité tigre dont l'homme n'est pas maître, il lui saisit le bras durement et voulut voir ce bracelet qu'elle regardait avec une flamme qui certainement n'était pas pour lui, quand tout de cette femme devait être à lui dans un pareil moment. « Montre-moi ce portrait, lui dit-il avec une voix encore plus dure que sa main. » Elle avait compris, mais sans orgueil. « Tu ne peux pas être jaloux d'une fille comme moi, lui dit-elle. » Seulement, ce ne fut pas le mot de fille qu'elle employa, non. À la stupéfaction de Trécigny, elle se rima elle-même en teint, comme un crocheteur qui l'aurait insulté. « Tu veux le voir ? » ajouta-t-elle. « Eh ben, regarde !» Et elle lui coula près des yeux son beau bras, fumant encore de la sueur enivrante du plaisir auquel il venait de se livrer. C'était le portrait d'un homme laid, chétif, au teint olive, aux yeux noirs, jeune, très sombre, mais non pas sans noblesse. L'air d'un bandit ou d'un grand d'Espagne, et il fallait bien que ce fût un grand d'Espagne, car il avait au cou le collier de la toison d'or. « Où as-tu pris cela ?» fit Tressigny, qui pensa « Elle va me faire un conte, elle va me débiter la séduction d'usage, le roman du premier, l'histoire connue qu'elle débite toute. »« Pris ? » fit-elle révoltée. « C'est bien lui, Paul Dios, qui me l'a donné. » »« Qui, lui ? Ton amant, sans doute ?» dit Tressigny. « Tu l'auras trahi ? Il t'aura chassé et tu auras roulé jusqu'ici ?»« Ce n'est pas mon amant, » fit-elle froidement avec l'insensibilité du bronze à l'outrage de cette supposition. « Peut-être ne l'est-il plus ? » dit Tressigny. « Mais tu l'aimes encore, je l'ai vu tout à l'heure dans tes yeux. » Elle se mit à rire amèrement. « Ah, tu ne connais donc rien à l'amour ni à la haine, » s'écria-t-elle. « Aimer cet homme, mais je l'exècre. C'est mon mari. »«
Ton mari ?»«
Oui, mon mari, » fit-elle, « le plus grand seigneur des Espagnes. 3 fois duc, 4 fois marquis, 5 fois comte. Grande Espagne à plusieurs grandesses, toison d'or. Je suis la duchesse d'Arcos de Sierra Leone. »
Fin de la partie 1.